C'est ta mère, elle a une bombe entre les mains qui va lui exploser à la gueule. Parce que tout ce qu'elle fait depuis le début, elle a pas le droit de le faire. Tu comprends ça? Et elle va le payer, je peux te dire, elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi. Je suis ton père! J'ai le droit de savoir où tu vis, là! Hein?
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away, now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Quand on baptise leur film documentaire, ils répondent non, c'est une fiction. Mais ce matin, on va pas jouer sur les mots. Oui, il peut y avoir de la réalité dans la fiction et un peu de fiction dans la réalité. C'est la question et c'est le thème du jour. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes.
Comment faire du cinéma avec le quotidien de beaucoup de femmes et d'enfants en souffrance? La réponse est dans ce film, Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand. Une femme et ses enfants terrorisés par un homme, prêt à tout pour les retrouver. Et cette femme, c'est vous. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Un mélange de force et de fragilité, il en fallait pour incarner et faire ressentir cette menace grand malaise. Jusqu'à la garde sort mercredi prochain. À vos côtés, celle qui incarne la justice, le bon droit, comme on dit, face aux déviances de la société. Bonjour Anne Gruet.
Bonjour.
Juge d'instruction à Bruxelles et héroïne, oui, héroïne, d'un documentaire Ni juge ni soumise de Jean Libon et Yves Inan, un film pour scandaliser ou faire rire là où ça fait mal, disent-ils, et ça fait mal. Ni juge ni soumise sur nos écrans mercredi prochain. Et enfin, une nouvelle semaine de sortie avec un boxeur, des voyous, un Woody Allen, une famille, un zoo et un voleur de chevaux kirghize. C'est le programme et c'est parti.
On voit bien que Julien n'est pas du tout prêt à revoir son père. La situation est trop compliquée.
Mais oui, mais vous en rajoutez aujourd'hui, excusez-moi.
Maître
de vous dire.
Guénin,
mais non, mais franchement, madame la présidente.
S'il vous plaît, pour l'instant, il n'y a personne qui s'énerve à part vous, alors. Bon, sinon, monsieur m'a dit tout à l'heure qu'il a acheté un téléphone à son fils et que visiblement, il n'arrive pas à le joindre. Il n'a aucun contact.
Julien ne veut plus répondre. À chaque fois, il le menace pour qu'il me passe le téléphone, il ne veut plus répondre. On veut juste vivre en paix.
Et moi, je veux juste prendre des nouvelles de mes enfants.
Qui veut vivre en paix?
Pardon?
Vous dites on veut vivre en paix, c'est qui on?
Julien, moi, ma fille aussi. Demandez-lui, vous verrez ce qu'elle vous dit.
Demandez à votre fille. Mais vos enfants semblent visiblement de votre côté, madame, et c'est justement ce qu'il faudra éviter, non?
Ce que je veux dire, c'est que c'est Julien qui a demandé à être entendu quand il a su que son père allait venir habiter ici. Moi, je veux que tout se passe bien. Voilà, je pense qu'au bien de mes enfants, je veux qu'ils soient bien.
Est-ce que je veux quelque chose?
Bon, ben, monsieur.
Moi aussi, je veux que mon fils soit bien. Il a besoin d'être encadré. Et c'est pas en privant de son père que ça va arranger les choses.
Ok. Bon, je mets la décision en délibéré au 29 mai. Vous l'aurez par l'intermédiaire de vos avocats. Au revoir, messieurs, dames.
Au revoir, madame.
Au revoir, présidente.
Au revoir.
Une femme et un homme récemment divorcés chez la juge qui devra décider de la garde des enfants. L'homme est-il dangereux? Comme le décrit la femme, la juge décidera finalement d'une garde alternée. Et le film commence jusqu'à la garde. C'est son titre. Oui, l'homme est violent, incontrôlable, malheureux, prêt à tout. Et le film, lui, sous tension permanente. Est-ce qu'il y a, Léa Drucker, une forme de responsabilité à incarner un tel rôle? L'idée de représenter toutes les femmes victimes? Ou alors, c'est trop lourd comme idée?
Je pense que c'est trop lourd comme idée. Par contre, ressentir une forme de responsabilité, la responsabilité d'être au plus vrai, même si cette vérité-là, cette vérité de cinéma n'a rien à voir avec une vérité avec laquelle vous travaillez quotidiennement. Mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Mais la responsabilité d'être juste par rapport à ce qu'on entend ou les témoignages qu'on a pu recueillir.
Oui, mais alors donc le vrai, ce sont des choses que vous avez entendues. Est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que vous avez eu des témoignages même de proches?
J'ai été témoin une fois, malheureusement, dans le métro, de quelque chose d'extrêmement violent. J'ai entendu beaucoup de choses et puis de par ma vie, dans mon entourage aussi, entendu des choses qui sont arrivées, bien sûr. Je crois que malheureusement c'est un problème assez courant Et il me semble qu'on connaît tous une personne proche ou moins proche, mais qui a été victime ou de violences physiques ou de violences psychologiques, qui fait aussi beaucoup de dégâts.
Elle a, semble-t-il, trouvé le bon comportement, en fait, cette femme, Myriam, c'est de ne pas s'emporter, ne pas, en fait, ne pas jouer le jeu de l'autre, non ?
Bah oui, alors est-ce que c'est un c'est un peu un mystérieux, c'est une sensation que j'éprouvais sur le tournage, c'est-à-dire il y avait un, je ressentais un mélange de colère et de peur et il fallait faire exister ces deux sensations là. C'est très étrange de se retrouver dans le bureau face à un juge quand on est un couple qui se connaît, on se connaît depuis longtemps. C'est une drôle de sensation. On joue aussi un rôle face au juge, puisqu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer comme on voudrait. Je pense que c'est aussi une femme qui peut-être se défend mal ou se protège mal.
Vous avez une juge à côté de vous, Anne Gruet. Vous avez vu ce film, mais c'est vrai que c'est une décision énorme à prendre, la garde des enfants pour un couple qui apparemment ne s'entend plus du tout.
Ça fait partie des décisions les plus difficiles, donc pour moi, effectivement, les métiers dans la justice qui sont les plus dangereux sont ceux qui touchent au cœur de l'homme, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, qui touchent à ses tripes. Et ses tripes, ce sont les enfants, ou bien alors c'est le lieu où vit la famille. Donc, en Belgique, vous savez peut-être qu'il y a 6 ou 7 ans, une collègue à moi qui était juge de paix, c'est-à-dire l'équivalent du tribunal d'instance normalement, et qui avait donc expulsé un homme de chez lui, cet homme est revenu pour l'assassiner, elle a été assassinée avec son greffier. On va me dire que l'homme était fou, ce qui est vrai, mais il est devenu fou aussi parce que la décision de justice a été prise longtemps avant qu'il n'arrive au point de pénétrer la salle d'audience avec un revolver. Et ce temps-là est le temps effectivement du danger pour moi, terrible, que court celui qui longtemps avant a pris la décision initiale.
Léa, dans le film, Antoine effectivement va, on ne sait pas, on l'a pas vu avant, mais c'est vrai que cette, il va devenir de, alors qu'il a la garde, il a la garde partagée, il va devenir de plus en plus fou, mais surtout, il va parler à son, il va se servir de son fils pour communiquer avec vous. En fait, il va lui parler plus comme à un adulte qu'à un enfant.
Oui, oui. Et en plus, alors ça, pour ça, il fallait aussi le tout le talent de ce jeune garçon Thomas Joria,
oui,
qui porte le poids de ce rôle aussi de sur ses épaules et qui le fait merveilleusement bien avec beaucoup de sensibilité. Et c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de cas où les enfants deviennent et spectateurs de ce qui se passe entre leurs parents, ce qui se passe de dramatique, et en plus acteurs malgré eux d'un lien qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir, je crois. Enfin, qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir, mais ils sont un peu pris en otage dans cette névrose-là.
Illustration, cette scène dans la voiture entre le père et le fils.
T'es devenu aussi menteur que ta mère. T'es pourtant pas moins intelligent qu'avant, non ? Regarde-moi quand je te parle. Fais chier son mec. Tu sais, ta mère, elle a une bombe entre les mains qui va lui exploser à la gueule. Est-ce que tout ce qu'elle fait depuis le début, elle n'a pas le droit de le faire ? Tu comprends ça ? Et elle va le payer, je peux te dire, elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi. Je suis ton père ! J'ai le droit de savoir où tu vis, non ? Hein ? Regarde-moi quand je te parle ! Regarde-moi ! C'est où ?
Tout droit.
Deuxième.
À droite.
Même en sonore, on y est là, Léa Drucker. Denis Ménochet, le père, et vous parliez de ce garçon, Thomas Juria, c'est ça?
Oui.
Votre personnage tente de préserver son fils, et est-ce que l'actrice a tenté de préserver le jeune acteur?
En tout cas, j'ai été troublée par ce qu'on avait à traverser ensemble sur ce film. Et j'ai tenté de le protéger surtout vers la fin. Et en même temps, j'ai assez vite compris qu'on était tous les deux embarqués dans cette histoire et embarqués dans cette séquence, une longue séquence qui a été assez éprouvante à tourner et en même temps passionnante. Et qu'on était... J'avais d'un côté un peu mon instinct maternel et d'un autre côté mon souci d'actrice, oui, qui était de réussir cette scène avec lui. Donc finalement, j'ai accepté l'idée qu'il était un acteur professionnel et j'ai gardé une petite distance avec lui pour pas... parce que j'aimais bien blaguer aussi avec lui, mais il y a eu quelques journées où je m'interdisais de rentrer là-dedans pour qu'on puisse faire ce mouvement le plus simplement possible.
Vous diriez que c'est un tournage éprouvant ?
C'était un tournage et joyeux et éprouvant, parce que pour bien faire des choses comme ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir avoir des moments de respiration, que encore une fois, on est dans de la fiction, qu'on avait une certaine jubilation à faire un film de cinéma comme ça. C'est un film assez particulier. Moi, j'en ai jamais fait des comme ça. Je crois même en avoir jamais vu des comme ça, qui mélange en même temps le cinéma d'auteur très réaliste, avec un propos très sérieux et très présent dans notre société, et en même temps, un film de genre, presque, un thriller, quoi.
Vous avez accepté le rôle sans hésitation ?
Sans hésitation, j'avais déjà travaillé avec Xavier Legrand et j'avais déjà joué ce personnage un an avant cette histoire.
Et votre corps joue beaucoup aussi, parce que cette femme est en rétention, elle a peur. Il y a une scène dans la cuisine où elle se fige complètement.
Oui.
Votre corps dit qu'il a peur.
Oui.
Dit que vous avez peur.
Ben oui, il fallait pas trop bouger. Je me sentais parfois comme un animal un peu piégé qui bouge plus et qui observe et qui essaie de chercher, de ressentir d'où peut venir le danger. Et le moindre mouvement que je pouvais faire m'angoissait, en fait. Je me disais, faut pas trop bouger.
Faut dire que Ménochet en impose, hein. C'est pas facile. Ouais,
il est magnifique comme comédien,
puis,
déjà. Et en
c'est
plus,
pas un petit poids,
il en
impose.
Oui, il en impose d'abord par son talent, moi, je trouve. Mais surtout, il c'est un acteur imprévisible, mais avec qui je me sentais très, très, très en sécurité. J'avais pas peur.
Anne Gruet, en tant que juge, je suppose que vous en avez rencontré des hommes comme ça.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un mélange de virilité et d'enfance. On sent que ce sont des hommes qui se sentent dévirilisés.
Oui, il doit probablement y avoir de ça. Il y a une chose que le film ne montre pas, sauf erreur de ma part, c'est le pourquoi de la séparation. Donc on prend le film au moment où on est devant le juge aux affaires familiales et où la garde des enfants... Et donc, ça, moi, en qualité, si je devais être juge, j'aimerais avoir un morceau de dossier avant comment ça se passait, avant qu'est-ce qui a amené cette séparation. Parce que la suite, effectivement, l'homme ne peut entrer que dans la violence parce que on le prive de ses tripes. Et c'est vraiment, vous savez, ça fait penser à la chanson de Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Donc, et cette chanson date d'il y a quoi, des années 80. Et ça reste, oui, il est mort en 86.
Oui, bien.
Donc elle date des années 80 et ça reste quelque chose de terriblement vrai. Donc d'avoir touché aux tripes de ce mari.
Mais Léa Drucker, on reste quand même tous des enfants parce que les deux, le couple, chacun revient chez ses parents.
Oui, et c'est, je trouve intéressant justement qu'on voit les enfants que ses parents sont aussi. Parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le film sur le personnage de Denis Ménochet quand on le voit chez ses parents à table et qu'on voit que les rapports sont plus que complexes et peuvent être assez désagréables. Donc Xavier voulait pas faire non plus une explication trop psychologique parce que c'est un réalisateur qui aime qui cherche à filmer la peur, qui voulait filmer la peur et qui a fait un gros travail d'enquête et de recherche, mais qui voulait exposer la situation d'une femme qui tente de se reconstruire tout en étant dans un piège.
Elle a toujours la bonne attitude, je trouve. On va écouter cet extrait où, à l'occasion de l'anniversaire de votre fille, lui débarque pour tenter de lui offrir un cadeau et elle le retrouve dehors.
Qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas que mon père te voie.
Bah, j'ai amené un cadeau pour Joséphine.
Je vais lui donner, si tu veux.
Je l'ai pas sur moi, il est dans la voiture.
Tu peux pas lui donner demain, quand tu viendras chercher Julia?
crois pas que c'est assez humiliant pour moi d'être ici. Je suis quoi, moi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis quoi pour toi? Je peux pas te joindre. Tu changes de numéro tout le temps, t'es jamais là, tu me fuis. Je suis devenu quoi pour toi? Je suis qui?
Je vais pas discuter avec toi, là, parce que c'est pour entendre les mêmes trucs que d'habitude.
Si, tu vas discuter avec moi, parce qu'on a fait deux gosses! Tu peux pas disparaître comme ça, ça me fait du mal, tu sais très bien que tu me fais du mal.
Faut que tu te soignes, Antoine.
C'est qui pour me dire ça? C'est à toi de te faire soigner, je te signale!
Myriam!
J'arrive!
C'est qui, lui?
Au gâteau.
C'est un ami de ma sœur. Oui, j'arrive!
Qu'est-ce qu'il fout, l'anniversaire de ma fille?
J'arrive, je m'en occupe.
Cyril, enchanté.
Antoine.
Je parle avec ma femme.
Ok. Bonne soirée.
J'arrive, hein, je m'en occupe.
Léa Drucker, il a gros à jouer aussi, Ménochet, parce que... Et en plus, le réalisateur ne pose pas de regard coupable. Hein, il doit être un méchant, mais avec sa douleur.
Moi, oui, parce que je crois que, d'abord, il a beaucoup étudié aussi, Denis, il a travaillé en préparation sur ce que c'est que le pervers narcissique, dans le sens clinique du terme. Et c'est vrai que le pervers narcissique, pour un acteur, c'est intéressant à jouer, parce que c'est quelqu'un qui prend des masques. Et je pense que le personnage de Denis, au moment où il craque, au moment où, donc, comme on l'entend dans cette séquence, ses revendications, quand, sur le papier, elles sont assez légitimes. Tu peux pas me priver de mes enfants, pourquoi ? Il y a un amour détruit, il y a des restes d'un amour détruit dans cette histoire qu'on sent. Mais, et c'est ça qui est difficile pour cette femme, c'est ça qui est très difficile à combattre, c'est qu'elle n'a pas forcément les armes pour se défendre sur ce terrain-là, parce que c'est très pervers.
Ça s'appelle Jusqu'à la garde et ça sort mercredi prochain, vous restez avec nous, bien sûr.
Et vous pouvez m'expliquer ce qui vous prend? Vous avez un père qui est entrepreneur, vous avez un boulot en or chez lui, le cul dans le beurre, hein? Le cul dans le beurre, hein? Et qu'est-ce que vous cherchez à aller en tôle? Moi, ça me gêne pas que vous cherchiez à aller en tôle, hein? C'est votre problème, hein? Mais le jour où vous y serez, faudra pas venir me dire à moi, c'est mes mauvaises fréquentations, vous comprenez, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ça que vous voulez? Vous voulez avoir un casier judiciaire? Et le jour où votre père, il n'est plus là, vous n'allez pas ouvrir une entreprise, hein, c'est pas possible. Vous n'allez pas reprendre la gestion de sa société, c'est pas vrai. Vous aurez un casier judiciaire. Vous n'aurez plus de certificat bonne vie et mœurs. Vous comprenez ça dans votre tête? Vous comprenez ça? Si je vous mets en tôle maintenant, c'est dans 2 mois que vous n'avez plus de certificat de bonne vie et mœurs. Vous comprenez ça?
Non, madame.
Et ça vous fait quoi comme effet de comprendre ça? L'avenir terminé, raf, le volet qui s'éteint. La même chose, hein, raf, la porte de la prison qui se ferme. Ah, c'est intelligent. Tout ça pour 2 GPS.
Un extrait de Madame la Juge, un épisode de Striptease qui vous était consacré, Anne Gruet, juge d'instruction à Bruxelles. Et désormais, vous êtes au cœur donc de ce film documentaire qui s'appelle Ni juge, ni soumise. Jean Libon et Yves Inan vous ont suivi pendant 3 ans et filmé vos auditions. Ils ont choisi, semble-t-il, les situations les plus fortes, les plus folles. Rassurez-nous, votre quotidien, vos dossiers ne sont pas faits uniquement de... prostitution, exhumation, consanguinité et mère infanticide.
Ce qui est montré dans le film, je vais dire sur une échelle de 10, c'est ce que nous voyons entre le numéro 4 et le numéro 8. Mm-hmm. Il y a des choses bien plus dramatiques que ça, et des situations bien plus dramatiques que ça. Il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus anodines.
Qu'est-ce qui est plus dramatique qu'une mère qui a tué son enfant?
Une fille qui est violée par son père.
Oui.
Ça peut être un exemple.
Une autre forme de meurtre, oui.
Quelqu'un qui tue plusieurs fois. Un père qui tue son enfant est aussi dramatique qu'une mère qui tue le sien. La torture, ce sont des choses qui me paraissent être... je ne vais pas dire plus dramatique, parce que tout est dramatique. Ça dépend comment on le prend. Je vais dire ce sont des choses qui existent également. Et qui font partie des pulsions de la personne humaine, éventuellement. Voilà.
Vous avez accepté... D'abord, pourquoi avez-vous accepté leur proposition ?
Ils ont demandé les autorisations aux autorités judiciaires qui sont les miennes, donc mes autorités hiérarchiques. Ils ont reçu les autorisations de pouvoir filmer le quotidien d'un juge d'instruction. Ils me connaissaient et ils m'ont dit « on va faire ça ». Moi, j'ai eu peur du remake parce que je n'aime pas le remake recommencer encore une fois. Le make-up, oui, mais le remake, non. Et ils ont dit « ben on essaye un petit peu ». Et puis alors, à force d'essayer un petit peu, ben, ils étaient dans la pièce, quoi.
Est-ce que c'est l'humour qui vous sauve ?
Si vous trouvez que j'en ai, c'est possible.
Et l'humour que vous pouvez porter au milieu de situations énormes ?
L'humour est toujours quelque chose de salvateur, parce que il permet de détendre la personne qui se trouve face à vous, il permet de vous détendre, et il permet d'échanger quelque chose en commun qui n'a pas l'allure des pleurs, du drame, de la colère ou d'autres sentiments.
On va écouter ben justement pas mal d'exemples de cet humour et de cette cruauté dans la bande-annonce du film, donc « Ni juge ni soumise ».
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour, c'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu ? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Si demain, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux. »
Chacun se console à quelque chose. C'est comme moi. Et comme mon ex femme est partie, j'ai adopté un chien pour...
Remplacer votre femme.
Voilà. Hein.
Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer de la prison. C'est rien à côté de moi.
Anne Gruet, vous avez une actrice à côté de vous. Est-ce que vous vous êtes sentie actrice parfois ?
C'est mon propre rôle que vous voyez à au cinéma.
Oui.
Je ne peux pas être actrice de mon propre rôle, ce n'est pas possible.
Donc vous n'avez
pas
surjoué.
Je n'entre pas dans la peau de quelqu'un d'autre. Je suis ce qu'on voit.
Et parfois, pourquoi les réalisateurs ne veulent pas entendre parler de documentaire alors ? Pourquoi ils disent
ça, vous leur demandez.
Oui,
hein,
d'accord.
Parce
oui,
que
mais vous
je ne fais pas partie du monde du cinéma.
Non, j'entends bien, mais vous leur avez peut-être demandé. Enfin, c'est quoi ce discours qu'ils tiennent ?
Ah, j'ai pas posé de questions. Moi, quand c'est pas nécessaire, je pose pas de questions.
On est bien clair. Vous ne jouez pas un rôle. Vous jouez votre vie.
Je ne joue pas.
Oui.
C'est ça.
Oui. Ouais. Vous ne jouez pas. Voilà.
Oui. Parce que la différence maintenant entre un documentaire, un film, etc., j'ai compris que ça dépendait terriblement des professionnels, c'est-à-dire de la manière dont c'est filmé, de la manière dont c'est monté, de la manière dont c'est présenté, etc. Donc ça se fait en dehors de moi. Et c'est pour ça que Jean Libon et Yves Vinant appellent ça un film, très probablement à raison.
Je serais juge, moi. Je vous reprendrai là-dessus.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça. C'est pas un lapsus linguae. Mais très probablement à raison pour des raisons que eux maîtrisent et que moi je ne maîtrise pas. Vous savez, homicide, meurtre, assassinat. Je vous pose la question comme ça d'emblée. Allez-y.
Qu'est-ce qu'il faut répondre ? Je sais pas.
Vous me donnez les définitions. La même manière que vous m'envoyez la question film ou documentaire.
Oui, d'accord.
Et moi, je vous montre un cadavre, je vous dis homicide, meurtre ou assassinat.
En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a du montage chez eux. Et le montage, ça fait effectivement
énormément,
la différence.
Énormément. Et c'est grâce à Jean Libon qu'on a le montage. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a passé des heures à faire ça. Et je trouve, et en tous les cas, ça fait partie des premières réflexions qu'on m'a faites, que le travail de montage était remarquable. Ce sont des amis qui m'ont dit ça, qui s'y connaissaient mieux que moi.
Anne Gruet, au-delà de ça, de votre lecteur, c'est quand même un état du monde complètement désespérant que vous côtoyez tous les jours, quoi.
Pourquoi désespérant ?
Les situations que vous avez à juger sont quand même assez terribles parfois, comme le décrit le film. une famille consanguine, une mère qui tue, je
mais
le rappelle.
Vous croyez, il n'y a pas que ceux-là qui sont consanguins.
Non.
Il n'y a pas qu'une mère qui tue son enfant.
Non, mais je veux dire, vous côtoyez quand même une espèce de, une sorte de misère humaine.
Je côtoie l'exacerbation des pulsions, généralement.
Oui.
C'est-à-dire que nous sommes tous faits de pulsions, de sang ou d'argent. Donc, avoir de l'argent, tuer, du sexe et des choses comme ça, nous sommes tous faits de ces pulsions-là, qui sont une palette de couleurs aussi importante que l'arc-en-ciel. De temps en temps, il y a une couleur qui sort et qui s'exacerbe. Et à ce moment-là, vous avez l'acte malveillant qui est commis. Et puis après, vous revenez. Je dis toujours, l'acte peut être aussi monstrueux, ce n'est pas pour ça que la personne qui a commis l'acte est nécessairement un monstre. Il s'agit d'un être humain, de la même manière que moi, mais dont la pulsion a été exacerbée, généralement.
Donc si je vous pose la question, vous croyez encore en l'être humain, vous allez me répondre oui.
Bien sûr. Bien sûr, je crois, j'en fais partie. Je ne peux pas ne pas croire en ma propre race.
C'est-à-dire que tous ces gens peuvent être vous aussi un peu?
Mais bien sûr. Je suis composée, à mon sens, c'est une opinion personnelle. Je suis composée de toutes les pulsions que je vois dans mon cabinet. Je suis composée de la pulsion de meurtre. Je suis composée de la pulsion sexuelle, de la pulsion d'amour, de la pulsion de coup, de l'avoir de l'argent, etc., qui est pas une pulsion. Ça, c'est plutôt un but. Mais je suis composée de tout ça, sauf que ma censure fait que je maintiens toutes ces pulsions à un niveau normal. Vous êtes composé pareillement de 7 péchés capitaux. Vous connaissez, c'est connu, enfin je veux dire depuis l'Antiquité, les 7 péchés capitaux, nous en sommes tous composés, que ce soit de la colère, de la gourmandise, de la paresse, du stupre, de la luxure, enfin je ne vais pas tous vous les citer, nous en sommes tous composés. Toute la question est de savoir si nous les portons de la même manière que dans le film d'il y a 50 ans, les 7 péchés capitaux, que vous avez peut-être vu, que nous les portons au paroxysme ou que nous les réfrénons.
Est-ce que vous avez peur parfois? Il y a un type à un moment qui sort, qui dit, moi je vais revenir et je vais mettre, je vais mettre une bombe et voilà. Est-ce que vous avez...
Il n'a pas dit qu'il allait mettre une bombe, il a dit qu'il allait partir en Syrie.
Oui.
Je le sais, j'ai vu le film. Oui.
Non, mais il y a des menaces physiques, non? Parfois, de temps en temps, ça peut arriver.
Ce que j'ai dit au début est très vrai. Je crois que le métier beaucoup plus dangereux qui est exercé que le mien est celui du juge aux affaires familiales que l'on voit dans le film de Mme Drucker ou celui de celui qui expulse quelqu'un de son domicile. Je ne touche pas nécessairement aux tripes des gens. Je les punis, mais je ne les blesse pas dans leurs tripes.
Eux, ils se disent coupables, en plus, c'est peut-être la différence. Ils se disent coupables, enfin, ils se savent coupables, eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette...
Non, il faut jamais compter que quelqu'un se sache coupable.
Un peu quand même.
Il faut pas demander la culpabilité, c'est quoi ça?
Un peu quand même, au fond. Alors que le père, lui, ne se sent pas coupable de l'amour qu'il porte à ses enfants, ce qui est parfaitement normal.
Certainement non.
Ouais.
Là, il y a peut-être... je n'aime pas qu'on parle de culpabilité devant moi, parce que mon métier n'est pas du tout de dire la culpabilité ou non, c'est le métier du juge correctionnel, première chose. Deuxième chose, ils savent quand même très généralement qu'ils ont un petit quelque chose à se reprocher. En tous les cas, ce qui est embêtant pour eux, c'est que j'en ai là, généralement, tous les éléments.
On parlait de « c'est une fiction, c'est la réalité ». J'ai repensé à un film en vous voyant, j'ai repensé à un film où on riait beaucoup à cette scène, et en fait je me suis dit, bah, c'est peut-être vrai. C'est un extrait de 9 mois ferme, Sandrine Kiberlin, qui joue la juge, et devant...
C'est parfaitement vrai, la prochaine fois on va se retrouver à la mort, que ce sera plus rapide, c'est cet extrait-là?
Non, vous allez voir
non.
Ce que c'est.
Ah oui.
Écoutez.
Madame les Suisses, moi c'est l'effet con ça seulement, con ça. C'est arrivé dans les selles de main, après, c'est voulu attraper les dentifrices ou bien les pommes de douce comme ça. Tu es obligé de tendre les bras. Ma famille est rentrée dans les selles de main. Moi, je n'ai pas calculé. J'ai juste tendu les bras comme ça. Et il est arrivé ici comme ça. Après, il est tombé par terre. Pourquoi sa tête est venue coller contre, avec ma main? Ça n'existe pas. C'est pas ma faute, madame Lazis. Moi, innocent? Pourquoi moi? Des fois, tu fais les stressings.
Donc alors, d'après le rapport médical, je cite, hématome œil droit, fracture de l'os ethmoïde et perte de connaissance de plus de 4 minutes.
Non, c'était pas 4 minutes, c'était une ou 2 minutes comme ça. Et après, tu mets les pansements, c'est fini. C'est tout.
La scène s'est passée dans une salle de bain. Donc sa femme a glissé sur un savon avant de heurter le lavabo. Voilà, donc ça n'excuse pas.
Comment ça, ce n'est pas esquissé? Ça, c'est les tout esquissés, toi? Ça, c'est les fatalités, madame Lézis.
Donc vous avez raison, on doit élargir notre réflexion.
Voilà.
Tout à fait.
On devrait entendre le savon et le lavabo.
Angry.
Parfaitement. On n'a pas idée comme c'est dangereux.
Mais ça pourrait être une de vos répliques, hein, ce qu'elle dit.
Ah, mais tout à fait. On a été voir ça en troupeau de juges d'instruction bruxellois, bien sûr. Et on était là dans la salle, tous sur la même lignée. Et on était tous morts de rire à cette scène-là. Parce que, et c'est la scène à laquelle, donc, elle reçoit la madame après qui confirme qu'elle a été sauvagement agressée par le lavabo. Ce qui ne m'étonne pas. Et puis alors, elle a dit à la dame, ah ben, la prochaine fois, on se retrouvera à la morgue, ce sera plus rapide. Ouais. Enfin, c'est la réplique suivante, je m'en souviens. Mais on n'a pas idée du danger que peut représenter un savon,
un
lavabo. Ces objets se déplacent assez facilement, finalement.
Léa Drucker, vous voyez bien que la frontière est fine, hein, parfois, entre la réalité et la fiction, et même un film dans lequel vous êtes, surtout, peut aussi dire énormément de choses.
Bah oui, moi je trouve, par rapport à ce film-là qui va sortir, et à
votre
façon d'aborder votre travail, que j'ai vu dans ce film qui passait à la télé, Une juge atypique, c'était ça le titre, l'extrait que vous avez
Le striptease, le numéro
Madame la juge.
C'est,
Madame
alors il y a des moments où on se dit, oui, c'est dingue, on est presque dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça pourrait être une scène écrite par un... Et puis après, on est dans une réalité très crue, mais je trouve que la vie est comme ça. Je trouve qu'il y a de la démesure dans la vie, et de la vie dans la démesure, tout est lié à des situations qui nous paraissent absurdes et qui sont tragiquement réelles. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous faites votre métier avec beaucoup de passion, et que je me souviens de ce que vous dites à ce jeune garçon de 18 ans qui a volé deux GPS. Oui. Et je m'interrogeais à la fin de cette séquence, peut-être que vous lui avez changé sa vie, je sais pas. Vous faites peut-être aussi un métier qui parfois transforme la vie des gens. J'espère. C'est la note optimiste de ce que vous pouvez faire.
On laisse une petite trace comme ça. Je me souviens de lui, il se souvient peut-être de moi.
Ni juge, ni soumise, sort mercredi prochain, tout comme Jusqu'à la garde. Angry, Léa Drucker, vous restez avec nous. On se retrouve pour évoquer les sorties après Jesse Reyes.
Figures. I gave you ride or die, and you gave me games. Love figures. I know I'm crying, 'cause you just won't change. Love figures. I gave it all, and you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't? I'm the bad guy, 'cause I can't learn to trust. Love figures. You say sorry once and you think it's enough. I got the line up. Special, something girls.
Sortie de la semaine, on va commencer, Laurent, par le Woody Allen, Wonder Wheel, qui croise les trajectoires de quatre personnages dans l'effervescence d'un parc d'attractions, celui de Coney Island dans les années 50. Ginny, c'est Kate Winslet, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse, un petit opérateur de manège marié à Ginny. Mickey, séduisant maître nageur qu'elle va tenter de séduire. Et Carolina, la fille de Humpty, longtemps disparue de la circulation, qui se réfugie chez ses parents parce qu'elle veut fuir les gangsters. Mais surtout, on va dire, portrait de femme tragique, comme l'était Blue Jasmine, son dernier grand film, plus sec, moins chargé que celui-ci, qui est beaucoup plus proche de Tennessee Williams dans l'esprit, le propos et même dans la photo au Kodachrome très soulignée, presque écœurant. On reconnaît toutes les figures de ce mélodrame, figures de théâtre auxquelles Woody Allen rend hommage, en perdant quand même au passage la subtilité et l'ironie de son cinéma. Et de cette grande roue sort une actrice exceptionnelle, c'est Kate Winslet.
Oui, c'est vrai pour Winslet. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que mais il déteste ses personnages, quoi. C'est la première fois, à mon avis, quand même, que le cinéaste Woody Allen se coupe à ce point-là d'une empathie minimale avec les personnages et les caractères qu'il décrit. Ils sont tous lâches, simplets, sans vrai caractère, sans vraie personnalité. Ce sont des marionnettes, quoi. Et je trouve que la façon dont il accepte ça, de montrer ça à ce point-là, la théâtralité peut pas être la seule explication, parce qu'après tout, au théâtre, on voit des gens complexes. Et c'est vrai, vous avez raison, en plus de souligner que la photo de Vittorio Storaro,
ouais,
et d'une pesanteur par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle alourdit terriblement le propos déjà très pessimiste de Woody Allen. On sort de là absolument plombé et on a effectivement une mise en scène et une image qui sont parfaitement redondantes avec le propos principal.
Bon, il faut dire qu'elle joue vraiment avec, elle joue vraiment le désespoir,
mais oui,
et
vrai,
la vulnérabilité de façon assez extraordinaire.
Certes.
Une saison, elle, c'est Kate Winslet. Une saison en France de Mohamed Saleh Haroun, Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d'obtenir le statut de réfugié, le quotidien d'Abbas s'organise. Ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il rencontre Carole. C'est Sandrine Bonner qui, décidément, tente beaucoup d'aventures de cinéma. Celle-ci en est à l'une.
Ah oui, oui, ouais. Je trouve que c'est une belle aventure parce qu'on connaît déjà la filmographie de ce ministre actuel de la culture, de son pays. Ça en fait un cinéaste un peu atypique, mais ô combien intéressant. Une filmographie exigeante avec des films, une saison chèche, enfin des choses vraiment très très fortes. Et là, cette incursion parisienne qui met le film en rupture par rapport au précédent, et je trouve tout à fait intéressante, et notamment dès lors qu'on ne le prend pas pour ce qui pourrait passer juste pour un film sur la question des réfugiés, ça n'est, à mon sens en tous les cas, pas le propos central du film, parce que le propos central, c'est beaucoup plus le portrait de cet homme dont vous venez de parler, qui est un instituteur avec ses deux enfants, qui eux sont toujours, ils ont bien raison, dans leur part de rêve, et c'est un formidable portrait de quelqu'un qui essaye à tout prix de s'en sortir, sans renier d'où il vient, sans oublier d'où il vient, mais aussi en pesant bien que le choix qu'il a fait l'oblige à regarder aussi son avenir, et l'avenir où il est à Paris. Voilà, c'est cette fragile équilibre que je trouve que une saison en France décrit avec énormément de subtilité et de beauté plastique aussi.
Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier. Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père, accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage. Il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir. Un pitch apparemment de comédie, fausse piste, surtout un pitch qui va peu à peu s'ouvrir sur beaucoup d'autres pistes de réflexion, parce que au milieu de ce clan très fantaisiste, Anthony Cordier raconte la famille, justement, dysfonctionnelle, mais aussi l'héritage et surtout la nostalgie de l'enfance que Gaspard devra quitter. Comme on est dans un zoo, Cordier va se servir de la métaphore de l'animalité pour explorer son sujet. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est gracieux, ludique, drôle et plein de fantaisie. C'est tellement rare en France, un scénario fantaisiste. C'est rare, donc c'est précieux.
Allez, je vous laisse je vous laisse le dernier mot. Voilà, mais tout le monde peut pas s'appeler Wes Anderson.
L'insulte de Ziad Doueri à Beyrouth de nos jours, une insulte qui dégénère, conduit Tony, chrétien libanais, et Yasser, réfugié palestinien, devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélation, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale, mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.
Oui, alors on se croirait, on pourrait se croire chez du Nathalie Sarraud, vous savez comment un tout petit mot, quelque chose va dégénérer, quoi. Ben, c'est ça le point de départ. Ou en Roumanie aussi, hein, les Roumains, ils adorent ça. Un tout petit caillou va provoquer un tsunami humain abominable. Bon, alors le problème, c'est que une fois que la mécanique est décrite, on voit bien comment le millefeuille se constitue, c'est-à-dire que chaque argument va entraîner un contre-argument, que chaque insulte va provoquer une autre insulte, que bref, on est dans une mécanique absolument implacable de l'enfouissement et de l'amoncellement. Et je dois reconnaître que quel que soit le grand intérêt, c'est-à-dire chrétiens libanais, palestiniens, on voit bien les enjeux énormes, humains, politiques, sociaux que ça charrie, au bout d'un moment, on est un peu soi-même épuisé par le principe du film qui, effectivement, frise l'asphyxie à force de cet amoncellement scénaristique. C'est dommage.
Voyocratie de FGKO, ce sont les initiales des deux réalisateurs. À sa sortie de prison, Sam tente de se réinsérer, mais il est vite rattrapé par le milieu, plus la police qui veut l'engager de force, comme indique, plus sa nouvelle paternité, bref, la description d'un engrenage criminel, tourné sans trop de moyens, le tout sonne juste, et notamment la description de la banlieue, sauf que tout cela a été vu et revu au cinéma. Restent les acteurs et l'énergie qu'on espère retrouver dans un prochain film.
Oui, parce que le manque de moyens ne justifie pas la caméra à l'épaule et les éclairages approximatifs. Il y a des gens qui manquent de moyens et qui tournent autrement. Il y a, au bout d'un moment, quand même, il faut peut-être faire, certes avec la contrainte, c'est toujours intéressant, mais à ce point-là, s'aligner sur cette contrainte pour manquer d'exigences artistiques et se dire, je vais peut-être faire autre chose que ce qu'on me dit de faire depuis des années dans ce film de genre, c'est un peu dommage.
Centaure de Aktam Arim Kubat, il est kirghize et dans un village au Kirghizistan, pardon, Centaure, autrefois projectionniste, mène désormais une vie paisible avec sa femme sourde et muette et leur fils.
Mutique.
Et il se rappelle du passé où les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu'un. C'est le cinéaste qui joue le rôle principal et cette nostalgie du temps passé où on a l'impression que c'est la sienne, hein. C'est l'un des pays, de son pays qui a été sauvé par les femmes, dit l'une des habitantes de ce village, devant courageuse, devant l'imam et ses disciples, qui peu à peu gangrènent ce petit village. Nostalgie aussi d'un certain cinéma, symbolisé ici par la salle, transformé en mosquée. Centaure, c'est donc politique derrière le poétique.
Oui, c'est une très belle fable parce que on pourrait penser que c'est un mélo, hein, le garçon mutique, la femme sourde et muette. Enfin, vraiment, il va dans le millefeuille, c'est assez accentué, mais pas du tout. Et moi, je trouve effectivement que la métaphore, il y a des métaphores qui sont plus ou moins heureuses, comme celle des chevaux en liberté. Bon, on a compris au bout d'un moment. Mais en revanche, cette métaphore que vous évoquiez sur le fait que le cinéma est devenu une mosquée, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort dans le film, parce que la dénonciation des intégristes qui sont en train de prendre le pouvoir et de tout phagocyter et de tout parasiter, ça fait en partie quand même tout le poids et l'intérêt de ce film. Il s'appelle Centaure, on le rappelle.
Un tout petit mot, même si on a reçu Kassovitz la semaine dernière sur Sparring, premier film de l'acteur Samuel Jouy, portrait d'un loser qui le sait et qui veut lui réussir sa vie et transmettre son idéal à ses enfants. C'est juste, tendre, subtil, porté par cet acteur Kassovitz qui a réussi à intégrer toutes les nuances de son personnage, son corps et son esprit. Et on va finir par une reprise qui vous tient très à cœur, c'est Adua et ses compagnes de Antonio Pietrangeli.
Pietrangeli, oui, parce que je dois reconnaître que je ne connaissais absolument pas ce cinéaste italien qui n'a eu à son actif que 15 films parce qu'il est mort prématurément, vous non plus. Bah, il faut le découvrir. Parce que ce Adua et ses compagnes, excusez-moi, c'est l'histoire de quatre prostituées romaines qui ouvrent dont la maison close est fermée et qui ouvrent un restaurant en banlieue. Et parmi ces quatre, là, il y a Simone Signoret et Emmanuel Riva. Je vous assure que c'est un casting absolument XXL. Et en plus, dans un second rôle, il y a le lâchissime Mastroianni, qui est toujours extraordinaire dans ce rôle-là. Non, franchement, c'est un très beau film d'une extrême sensibilité, avec un goût et un sens des décors formidables. C'est une, pour moi, c'est une découverte incroyable. Adua et ses compagnes.
Vite, vite, le cadeau pour nos deux invités, oui, le c'est même un, pour chacune.
C'est un film d'Andrei Djaginsev, le dernier en date, qui était à Cannes, Faute d'amour. Il vous intéressera, vous qui vous intéressez au sort des enfants et à la famille, parce que c'est ça qui est au centre du film. Les bonus sont notamment constitués par un entretien avec le cinéaste et un portrait par Xavier Le Herpeur. C'est chez Pyramide.
Ah, d'ailleurs, du Léviathan et le, voilà. et Elena. Un des plus beaux films que j'ai vu.
Ah, mais nous sommes bien d'accord.
Ça veut dire que vous allez voter pour lui au César, alors?
Bah, probablement.
Il est dans la shortlist, comme on dit en français, pour le César du film étranger.
Les Césars avec ce prix du public.
Ridicule. Voilà, absolument ridicule. Nous sommes d'accord.
Et moi, je suis pas contente parce qu'il n'y a pas Nothing Wood dans le, mais dans les meilleurs.
Il y a quelques manquements. Où est Arnaud Desplechin?
Merci, Anne Gruet, pour votre prestation ici, pour votre prestation dans le film Juge ni soumise, qui sort mercredi prochain. Merci Ida Drucker, pour ce beau rôle et cette superbe interprétation dans Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. À la semaine prochaine, on se quitte avec vous deux pour le générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Anne Gruet, j'y étais.
Et moi, Léa Drucker, j'y étais.